Radio Kapi.
Oh, Kapi.
La rentrée scolaire 2023-2024 est incertaine pour plus de 6000 enfants vivant dans le site des déplacés de Kigonze dans la ville de Bounia, province de l'Ituri. À Goma, au Nord Kivu, les familles qui ont perdu leurs membres dans les incidents de mercredi dernier, à Kiziba 2 organise un deuil collectif de toutes les victimes à partir de ce samedi 2 septembre devant le stade de l'Unité. José Mpanda, ministre congolais de l'agriculture, est l'invité de ce journal. Il nous parle du forum sur l'agriculture dénommé Agribusiness qui sera organisé ici à Kinshasa le mois prochain. Mesdames et messieurs, bonjour. Des perturbations et instabilités des services d'Internet sont constatées sur les réseaux Vodacom depuis hier vendredi dans l'après-midi. Une situation qui pose d'énormes préjudices aux abonnés jusqu'à ce samedi. Jusqu'ici, nous n'avons pas réussi à joindre Vodacom pour en savoir plus, mais un texto envoyé hier par cette société de téléphonie cellulaire à la clientèle parle d'un désagrément causé par l'instabilité du service Internet dont Vodacom s'excuse. La société annonce que ses techniciens sont à pied d'œuvre pour le rétablissement du service. Je le disais tantôt, la rentrée scolaire 2023-2024 c'est pour ce lundi 4 septembre, mais ce rendez-vous risque de ne pas avoir lieu pour plus de 6000 enfants vivant dans le site des déplacés de Kigonze. Nous sommes à Bounia, dans la province de l'Ituri. Ces enfants en âge scolaire n'ont pas accès aux cours et passent leur journée à vagabonder dans la rue, exposés à la délinquance juvénile. Une situation qui inquiète leurs parents. Le chiffre est contenu dans un rapport présenté en début de semaine au coordonnateur humanitaire en RDC lors de sa visite dans la région. Marine Mamagira nous en dit plus depuis Bounia.
Selon ce rapport, seuls 800 enfants des déplacés ont la possibilité d'accéder à l'éducation scolaire dans le site de Kigonze, situé dans le quartier Muzipela à Bounia. L'école fonctionne dans ce site. Malheureusement, cet établissement n'a pas la capacité d'accueillir tous les enfants en âge scolaire vivant dans ce camp. Une vraie inquiétude pour leurs parents déplacés. Ces enfants passent en effet leur journée à déambuler dans les rues de Bounia pour mendier, exposés à la délinquance et à la prostitution pour les filles. À la veille de la rentrée scolaire, Papi Nganja, le représentant des déplacés de Kigonze lance un cri de détresse aux autorités et aux organisations humanitaires œuvrant dans le secteur de l'éducation en faveur de ces enfants.
Les enfants, parce qu'ils manquent les moyens d'encadrement, ils sont en train de se déverser dans la rue. Nous avons besoin des ONG qui interviennent dans les cadres scolaires tels que UNICEF ainsi que leurs partenaires de nous venir en aide pour construire en urgence des espaces pour permettre à ces enfants déplacés d'étudier comme les autres enfants étudient. Parce que tous, ils ont aussi le droit d'étudier.
Le coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Lemarquis, a pour sa part indiqué que les démarches sont en cours en vue de répondre à ce besoin au plus vite, signalant que ce même besoin se fait sentir dans plusieurs autres sites de déplacés de la province. Bounia, Marine Mamagira, Radio Okapi.
Au sud Kivu pendant ce temps, les victimes de l'incendie du 3 juin 2023 au camp Zaïre dans la commune urbaine de Kadutu à Bukavu appellent à une assistance d'urgence pour la scolarisation de leurs enfants. Près de 1000 ménages sont toujours sans abri dont la plupart se trouvent dans les bâtiments scolaires catholiques. Ces sinistrés en appellent à l'intervention de toute personne de bonne volonté. Environ 500 propriétaires des maisons calcinées et plus de 450 locataires sont dépourvus de tout, même de la nourriture. Yoyo Baingwa Mushamaliroa, porte-parole des sinistrés, explique au micro d'Emmanuel et la Mejua Kabidi.
Nous sommes en train de montrer aux gens que, comme la rentrée scolaire pointe à l'horizon, les responsables de l'église catholique peuvent nous faire sortir dans leur bâtiment là où nous sommes logés aujourd'hui. Et les enfants et le père sont donc ce sont des classes qui sont divisées par des rideaux. Le bailleur sont au nombre de 482. Les locataires vont pouvoir arriver à 564.
Alors, s'il faut qu'on vous assiste aujourd'hui, c'est avec quoi? Comment se situent vos besoins?
La première des choses, vraiment, on allait commencer d'abord par demander à notre État de nous doter au moins pour une maison en briques, parce qu'on a envie que si du moins on reconstruit encore des maisons en planches, c'est toujours les mêmes dossiers qui va nous arriver. Maintenant, nous sommes dit de plaider chez l'État qui nous donne au moins 5 000 $ pour un bailleur qui peut construire des chambres et salons en dire. Et et pour les locataires, au moins 1 500 $ parce qu'il va s'acheter quelque chose et puis il paye le loyer.
Comme annoncé au sommaire, à Goma, au Nord Kivu, les familles qui ont perdu leurs membres dans les incidents du 30 août dernier à Kiziba 2 organisent un deuil collectif de toutes les victimes à partir de ce samedi 2 septembre devant le stade de l'Unité. Dans une lettre d'information adressée au maire de Goma, dont l'accusé de réception est signé le 1er septembre par la police nationale congolaise ville de Goma, un consortium des organisations des droits de l'homme dénommé GECODEM sollicite la sécurisation du lieu du deuil. Ces organisateurs du deuil avec les familles vont se constituer en partie civile au procès et invitent toutes les familles victimes à apporter les photos et tous les éléments pour les faire enregistrer. Vous entendrez l'un des organisateurs dans nos prochaines éditions. Et puis, notez ces différentes réactions en rapport avec ces événements de Goma. Le président de la République s'est dit consterné par la mort d'une quarantaine de personnes brutalement fauchées au cours de cette manifestation dans la capitale du Nord Kivu. Selon le porte-parole du gouvernement, Félix Tshisekedi demande au vice-premier ministre de l'Intérieur et celui de la Défense, ainsi qu'à la ministre d'État en charge de la Justice, de lui faire rapport dans un bref délai sur les circonstances qui ont occasionné cet effroyable drame pour que des sanctions sévères soient prises contre les responsables de ces tristes événements. Je suis profondément indigné par les images choquantes du massacre dont ont été victimes les manifestants du mouvement politico-religieux La foi naturelle judaïque messianique vers les nations, écrit de son côté le docteur Denis Mukwege. Je condamne fermement cette barbarie perpétrée par des éléments de l'armée congolaise dont la mission première est pourtant de protéger notre population et notre territoire, ajoute-t-il. Et de poursuivre, je le cite, les FARDC ont fait un usage disproportionné, inacceptable et condamnable de la force. Cette énième bavure illustre l'urgente nécessité de mener une réforme profonde du secteur de la sécurité pour professionnaliser les forces de défense et de sécurité. Fin des citations. En plus bref, à Goma, trois personnes, dont deux journalistes locaux et un conducteur des motos, ont été fauchées dans un accident de circulation la nuit d'hier vendredi 1er septembre 2023. Sami Chamamba, éditeur du journal Congo 26, et Junior Akilimali du journal Horizon Grand Lac, tous deux dont les sièges sociaux se trouvent à Goma, étaient sur une moto lorsqu'une voiture de marque Noah les a percutés sur la route Katindo alors qu'ils regagnaient leur domicile respectif. Un accident tragique qui a suscité l'émotion de plus d'un dans la ville de Goma et en particulier dans la presse locale. Nord Kivu toujours, mais cette fois-ci à Butembo, où 14 présumés bandits munis de leurs armes blanches ainsi que des biens volés ont été présentés à la presse hier vendredi par la police. D'après le commissaire supérieur Georges Ngonzela, commandant urbain de la police, ces individus ont été arrêtés lors d'une patrouille dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Le maire de Butembo, présent à la cérémonie, salue la collaboration entre les forces de sécurité et la population qui a abouti à l'arrestation de ces présumés bandits. Les propos du commissaire supérieur principal Roger Moabeketeli ont été recueillis par la presse police, dont l'extrait nous est proposé par Grévis Salomon.
Nous remercions la population qui a collaboré avec la police pour qu'on mette la main sur ces hors-la-loi, puisqu'ils perturbent la quiétude des paisibles populations de la ville de Butembo. C'est ainsi que nous réitérons notre demande auprès de la population de pouvoir collaborer toujours avec la police pour que cette franche collaboration puisse perdurer afin de permettre que la police fasse son travail comme il se doit. Que cette population ne puisse pas baisser les bras, puisque les policiers ne sont pas des magiciens. Pour qu'ils puissent avoir certains indices, il faut qu'il y ait la collaboration avec cette même population. Nous remercions également la police pour avoir réalisé un coup de filet très important qui a mis hors d'état de nuire ces délinquants. Ce sont ceux qui dérangent la quiétude de la population. Je ne pourrais qu'encourager la justice à faire son travail. Si vous allez à Kakwangour, nombreux sont là-bas et la justice fait réellement son travail.
Il faut noter que tous les biens volés par ces individus ont été restitués à leurs propriétaires pendant la cérémonie. Autre nouvelle, fermeture hier des bureaux de réception et traitement des candidatures pour les élections provinciales et celles des candidats conseillers communaux sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette fermeture coïncide avec celle de la période d'ajout, des substitutions ou des retraits de certaines candidatures. Malgré toute la période accordée aux partis et regroupements politiques, plusieurs mandataires et candidats étaient toujours nombreux au BRTC Mbujimayi avec des dossiers incomplets. Retour sur cette journée d'hier vendredi dans ce reportage d'Esther Ndalafina.
Plusieurs personnes, dont notamment les mandataires, les candidats, ainsi que les membres de certains partis et regroupements politiques assis à même le sol, remplissent les formulaires à déposer au BRTC. Selon le président du BRTC, les mandataires et les candidats souhaitent venir travailler en dessous des arbres se trouvant dans la cour du secrétariat exécutif, loin des bruits. Après les avoir interrogés, les raisons ne sont pas les mêmes. Écoutons Paul Bounibabou du Rassemblement des démocrates.
Les dossiers étaient là-dedans et il y avait des erreurs. C'est ce qui nous ont poussé de venir arranger.
Un mandataire de notre parti politique avance ce motif.
C'est dit aux conditions qu'on nous a données d'avoir des pourcentages élevés de mamans. On était obligé d'aller chercher les mamans dans des différentes cités.
Nous avons aussi rencontré un accompagnateur venu prêter main forte à ceux chargés de remplir les formulaires et lui s'est exprimé en ces termes.
La CENI a remarqué des irrégularités. Alors, il a renvoyé ce dossier-là dehors pour qu'on puisse les arranger.
Signalons que tous les BRTC en RDC sont désormais fermés pour laisser ainsi la place au seul BRTC qui sera ouvert à Kinshasa pour l'élection présidentielle. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Et puis, Gisèle Kapinga-Ntumba remplace Paul Sapou à la tête de la Commission nationale des droits humains CNDH. Décision prise hier vendredi 1er septembre ici à Kinshasa au cours d'une plénière élective à laquelle ont pris part la majorité des commissaires nationaux de cette institution d'appui à la démocratie sans Paul Sapou. Selon Véronique Ngongo-Foura, rapporteure adjointe de cette structure, il est reproché au président de la CNDH plusieurs griefs dont malversation financière, violation du droit au respect de la dignité de la personne humaine et mercantilisme à la CNDH. Véronique Ngongo-Foura est au micro de Paul Matendo.
Avoir entretenu le détournement de 30% de fonds destinés à la CNDH au profit des pseudo-intervenants extérieurs depuis le mois d'avril 2023, dont il a refusé de révéler le nom jusqu'à ce jour. Mercantilisme à la CNDH. Avoir unilatéralement contracté de prêts auprès des particuliers pour des dépenses non avalisées par la plénière de la CNDH et à des taux d'intérêt faramineux, à l'exemple du prêt de 100 000 $ auprès d'un créancier inconnu au taux d'intérêt remboursable de 20%. Le président des séances met aux voix les résolutions à l'ordre du jour. Première résolution. Des choix en vertu du principe de parallélisme de forme et de compétences, Monsieur Paul Sampoumoukoulou, pour manquement grave à ses fonctions de président de la CNDH, et procéder à l'élection d'un nouveau président.
Signalons que Paul Sapou avait déjà démissionné de ses fonctions du président de la CNDH 24 heures avant cette décision. Parlons de cette formation des personnes vivant avec handicap en coupe et couture et en cordonnerie par les bureaux diocésains de la Caritas Développement Matadi dans la province du Congo central. Hier vendredi, les 20 handicapés moteurs ont reçu des brevets qui sanctionnent la fin de leur formation qui a duré 6 mois. Ceci rentre dans le cadre du projet de réinsertion socio-économique des personnes vivant avec handicap. Pour la révérende sœur Itrida Ndombi, responsable du bureau diocésain de développement des Caritas Matadi, ces projets en faveur de cette catégorie de personnes méritent d'être appuyés par les autorités politico-administratives ainsi que par des personnes de bonne volonté. Nana Plurich Mambou, reportage.
Parmi ces 20 handicapés moteurs brevetés, 15 sont formés en cordonnerie et 5 en coupe-couture. Cependant, la mise en pratique des notions et techniques apprises au cours de la formation risque de poser problème car aucun apprenant ne dispose des kits de réinsertion. C'est ce qui préoccupe la directrice du bureau diocésain de développement de la Caritas Développement Matadi, la révérende sœur Itrida Ndombi, d'où son plaidoyer en faveur de ces personnes vivant avec handicap.
La première difficulté, c'est les déplacements. Il y en a qui ne savent pas marcher, alors normalement ils doivent prendre soit la moto, soit un taxi. Quand ils viennent, ils vont apprendre parce que la formation est gratuite. Hein? Pendant 6 mois, ils ne payent rien. Quand ils terminent les kits de réinsertion, il est idéal que chacun puisse avoir sa machine à coudre, chacun puisse avoir son kit pour la cordonnerie. Mais on n'a pas vraiment les moyens. Toute personne qui nous entend, si on peut nous secourir sur ces points-là, parce que ces personnes vivant avec handicap, elles sont capables d'apprendre, mais il faut l'encadrement et les kits. Donc, vraiment, une fois de plus.
Cette formation a été financée par la Fondation Roi Baudouin. Rappelons que depuis l'exécution de ces projets en 2022, 65 personnes vivant avec handicap ont déjà été formées notamment en agistage, tricotage, maçonnerie, coupe et couture ainsi qu'en cordonnerie. Matadi, Nana Pleriche Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko suspend sa grève de la faim. C'est ce qu'affirme ce samedi 2 septembre un porte-parole de son parti. Ousmane Sonko, condamné au mois de juin pour corruption de la jeunesse, est également poursuivi entre autres pour appel à l'insurrection, a annoncé avoir entamé une grève de la faim le 30 juillet pour protester contre ses conditions de détention.
L'invité.
L'invité de ce journal, c'est José Mpanda, ministre de l'Agriculture. Il annonce ici pour le mois d'octobre la tenue à Kinshasa d'un forum sur l'agriculture dénommé Agribusiness. José Mpanda s'entretient avec Donna Madimba.
Monsieur le ministre José Mpanda, bonjour.
Bonjour.
Votre ministère prévoit un atelier de 3 jours sur l'agribusiness dans les jours à venir à Kinshasa. Chacun peut imaginer ce que agribusiness peut signifier en français. Mais vous-même, comment votre ministère définit-il ce concept d'agribusiness et pourquoi cet atelier agribusiness pour le ministère et le secteur de l'agriculture en RDC?
Merci. Je voudrais d'abord expliquer que l'agribusiness, c'est une réflexion sur la chaîne de valeur agricole. L'agriculture n'est pas seulement prendre les maïs, mettre dans la terre, planter, mais il faut savoir comment il faut les récolter. L'agriculture intelligente prouve aujourd'hui que celui qui n'a pas respecté les conditions pour bien planter, au lieu qu'il produise dans un hectare, aujourd'hui avec les semences améliorées, qu'il produise 10 tonnes, il peut produire 80 kilos, 800 kilos, puisqu'il a mal semé. Et même quand vous avez bien semé, quand vous récoltez, il faut savoir comment il faut le faire. Puisqu'en récoltant, il est établi par les grands producteurs du monde que vous pouvez perdre 35% à la récolte, puisque vous avez mal récolté. Il faut une agriculture intelligente. Et quand vous avez récolté, dans les conditions qu'il faut, il faut savoir sécher le maïs. Puisque quand vous ne l'avez pas bien séché, ce maïs-là, quand vous arriverez à ce qu'il soit transformé en farine, vous pouvez ne pas faire une bonne farine. Il faut bien les sécher. Et quand il faut les sécher, il faut savoir conserver. Il faut des silos pour les réserver. Si toute la chaîne n'est pas respectée, vous pouvez mettre des moyens et considérer que l'agriculture ne marche pas. L'agriculture, c'est pour les pauvres. Non, l'agriculture reste les bastions du développement, les socles du développement.
Alors, est-ce que ces journées permettront seulement de sensibiliser ou bien de pouvoir intéresser les investisseurs à déjà même se prononcer pour investir?
Bien sûr. Ces journées, c'est non seulement les réflexions de présenter les potentiels que nous voulons transformer en richesse, mais aussi demander aux investisseurs qui sont intéressés par la RDC de venir voir privé, de venir voir dans quelles conditions ils peuvent investir en RDC. Nous leur démontrerons les conditions pour les accueillir facilement et qu'ils soient rassurés de mettre les moyens qu'ils ont dans le monde agricole.
Est-ce que ce n'est pas un peu illusoire d'attendre que les investisseurs viennent alors que le climat des affaires en RDC est toujours présenté comme un climat à craindre?
Oui, c'est vrai que c'est cela que ça donne. Mais nous, en matière agricole, nous avons les codes agricoles, la loi portant principes fondamentaux sur l'agriculture. Et ça permettra ces jours-là que les présidents du Parlement, présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale qui seront panélistes pour qu'ils présentent les conditions du climat des affaires. Ce forum est sous l'impulsion et même la vision du président de la République, qui sera d'ailleurs là.
Monsieur le ministre Mpanda, justement, vous souhaitez qu'à travers l'atelier agribusiness, les investisseurs aussi nationaux qu'étrangers passent à l'action dans l'investissement RDC, mais est-ce que votre ministère a des projets concrets en ce moment dans les tiroirs? Si oui, lesquels?
Oui, nous avons des projets dans nos tiroirs. Nous avons les projets avec certains investisseurs. Moi, j'ai le programme volontaires agricoles. Et on signera ces jours-là avec certains. Nous avons l'OCP, l'Office national des phosphates du Maroc, qui a donné au président de la République. Nous avons ici à Matadi les phosphates qu'il faut utiliser aujourd'hui, puisque Comment pourriez-vous poser la question qu'aujourd'hui, l'Israël, qui est un pays désertique, où il n'y a que des pierres, ils arrivent à être les premiers producteurs de la tomate, par exemple, alors que la RDC regorge tout ce que vous avez comme potentiel que vous connaissez, mais nous n'arrivons pas à avoir ne fût-ce qu'un seul produit identifié où on peut être le premier producteur mondial. Il y a des problèmes qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'on mette ensemble avec les autres ministères sectoriels, avec les mondes privés, la FEC, COPEMECO, ils seront là. Ils vont pouvoir parler, qu'on arrive à diagnostiquer les problèmes pour que l'investisseur national étranger soit sécurisé en secteur, notre secteur agricole.
Ministre de l'Agriculture, José Mpanda, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Notre invité répondait aux questions de Donna Madimba et c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Infiniment merci à Jacques-Yves Molima pour la coordination et Pelé Kipela Mondo pour la supervision. La mise en onde était assurée par Dieudonné Nyangasa. Grâce à Mzati Massan, c'était la présentation. Merci également à vous tous qui nous avez suivis et excellent week-end à toutes et à tous.